l'histoire actualité comme tous les vendredis dans la fabrique de l'histoire, actualité des fictions d'histoire comme tous les premiers vendredis de chaque mois. Trois fictions d'histoire au programme de notre vendredi avec trois films, cette fois-ci à trame historique, commentés par Anaïs Quin de la Fabrique de l'Histoire, Anne-Isabelle Eulandena, professeure d'histoire à l'Université de Reims en histoire médiévale, Jeanne Moisan, maîtresse de conférence à l'Université de Paris 1, et Yann Potin, maître de conférence à Paris 13, archiviste aux Archives Nationales. Au programme de ce matin, trois films sur fond de guerre, Deuxième Guerre mondiale, d'abord avec La Juste Route, un film hongrois dont le titre là-bas est 1945, et dit bien ce qu'il veut dire puisqu'il sort en janvier et nous raconte l'immédiat après Seconde Guerre mondiale dans un village de Hongrie. Les gardiennes de Xavier Beauvois qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale et exalte le rôle qu'ont joué pendant cette guerre les femmes à l'arrière du front. Et enfin, Ray de Nils Attala qui nous raconte l'aventure de Antoine de Tounens qui voulait être souverain pendant les guerres entre le Chili et l'Argentine, souverain d'Araucanie et de Patagonie au 19e siècle donc. Puis à la fin de cette émission, comme tous les vendredis, la séquence C'était à la Une, notre séquence sur la presse de ces deux derniers siècles avec le site Retro News de la Bibliothèque nationale de France. Titre de Tibor Jemzo, je ne sais pas si je prononce bien le nom de ce compositeur hongrois qui, par ailleurs, est donc l'auteur de la musique du film La Juste Route qui sortira en janvier dans nos salles. Bonjour à vous Yann Potin.
Bonjour.
Bonjour Jeanne Moisan.
Bonjour.
Bonjour Isabelle Eulandena.
Bonjour.
Et bonjour Anaïs Quin.
Bonjour.
Et vous nous présentez donc ce film qui est le premier objet d'histoire que dont nous allons traiter dans cette table ronde fiction de ce mois de décembre.
Il s'agit de La Juste Route de Ferenc Torok. Je suis à peu près sûre que la prononciation est fautive. Donc un film hongrois. Mmh. Nous sommes en Hongrie en août 1945, dans un petit village. On prépare un mariage. On pourrait résumer le décor et les personnages de ce film par le délateur, les collaborateurs, les rescapés et l'épicerie. Mmh. Et on prépare ce mariage et la résurgence de ces spoliations de guerre autour de ces épiceries, cette résurgence qui apparaît au moment où deux hommes que l'on identifie très rapidement grâce à leurs vêtements à deux juifs arrivent dans ce village et tout le monde craint qu'ils ne dévoilent les spoliations qui ont été effectuées pendant la guerre. Et cette petite fiancée qui prépare avec ferveur son mariage avec le fils du notable du coin devrait être la nouvelle propriétaire de cette épicerie, mais évidemment tout cela va déraper et c'est ce qui donne la fable de ce film La Juste Route de Ferenc Torok.
Oui, parce que effectivement ce film qui sortira, rappelons-le, en janvier dans nos salles est un film en noir et blanc, très beau noir et blanc d'ailleurs, qui va puiser un tout petit peu du côté des films de Sergio Leone par sa lenteur et par la présence en particulier du train qui arrive et qui repart.
C'est pas le film le plus lent de cette émission.
Pas de la musique, hein, du coup.
Non, pas de la musique non plus. Mais ça n'est pas Ennio Morricone qui en est l'auteur,
non,
effectivement. Mais c'est effectivement un film qui, très lentement, nous fait progresser dans une intrigue qui, dans laquelle on comprend finalement, effectivement, que ce que vient de dire Anaïs Quin est le cœur de ce sujet, c'est-à-dire la peur d'un village devant l'arrivée de deux juifs. Il n'y a plus de juifs dans ce village. Ils ont été exterminés. Ils sont partis pendant l'extermination. Et donc, on ne sait pas très bien ce qu'ils viennent chercher, ces deux juifs qui reviennent dans ce village de Hongrie, Isabelle Eulandena.
Oui, alors ce film, bon, vous évoquiez le noir et blanc, qui est très joli sans doute, mais bon, moi je n'ai pas regardé ça de ce point de vue-là. Hein. J'ai regardé ce film disons, avec une forme d'interrogation sur ce que veut démontrer le réalisateur. Parce que, bon, les spoliations, c'est une chose assez bien connue.
Cinéma. Moi, je n'ai jamais vu de film sur les spoliations au cinéma.
Oui, mais alors, en même temps, le traitement de la chose n'est pas non plus très approfondi. Le remords, la culpabilité. Et j'ai trouvé ce film à la fois... un peu léger dans la mise en contexte, hein, parce que quand même, en août 45, faut pas oublier qu'il y a 500 000 juifs qui ont été exterminés en quelques semaines, peu auparavant.
Quelques mois auparavant.
Voilà. Et donc, on voit ces deux personnes arriver. Alors, la bonne idée du film, c'est peut-être justement ces itinéraires, cette progression, puisqu'il faut rappeler qu'ils descendent du train et que là, il y a une forme de panique qui se crée. Le chef de gare qui monte sur sa bicyclette et qui progresse vers le village pour en informer les villageois. Les deux juifs qui marchent à pied derrière une carriole qui porte leur caisse. Et donc, effectivement, ça, c'est la progression. Mais pour le reste, moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu léger et surtout très manichéen.
Oui.
Très manichéen. C'est-à-dire que on a l'impression que dans ce village, c'est en quelque sorte des fonctionnaires, le chef de gare, le secrétaire de mairie qui est aussi
très patibulaire, le secrétaire de mairie.
Très patibulaire. Les gendarmes, les gendarmes. Enfin bref, ce sont les méchants. Ce sont eux qui ont dénoncé les juifs du village et se sont emparés de leurs biens. Les villageois sont sous la terreur de cet homme.
Ce secrétaire de mairie.
À la mine patibulaire, comme vient de le dire Anaïs. Et puis, à mesure qu'on va vers le dénouement, on voit ces gens se retourner. Hein, et on va pas dévoiler la fin du film.
Bien sûr,
il faut pas le voir. Mais et une forme de réconciliation, de pardon.
Oui, je vois pas ça comme ça.
De pardon.
De la part des deux juifs.
Ouais, de la part des deux juifs, oui, bien sûr. À la fin du film.
Ah bah,
oui. Excusez-moi.
Oui, si, un petit peu.
Un geste pas équivoque.
Oui, oui, c'est la main.
Et donc, je trouve ça un peu manichéen et au fond un petit peu ennuyeux.
Jeanne Moisan, à propos de ce film donc qui s'appelle La Juste Route et qui sortira en janvier sur les écrans en France et à Paris.
Oui, donc moi j'ai aussi aimé ce côté, la dramaturgie du film avec le côté très resserré, le fait qu'il essaye de faire comme une tragédie grecque avec l'unité de lieu, l'unité de temps. Mm-hmm. Donc voilà, tout se passe en quelques heures, on arrive au bout de la route et là il y a un dénouement qu'on n'attendait pas nécessairement. Mais c'est vrai que moi j'ai été gênée. Alors c'est peut-être moins par ce problème de contextualisation que par le film en lui-même, c'est-à-dire que j'ai trouvé que les acteurs exagéraient énormément leur jeu, que la manière dont c'était filmé renforçait encore ce sentiment-là. Par exemple, il y a un moment où le jeune juif, on voit son numéro de matricule.
Pour reconnaître que ça, ce n'est pas le plus subtil de ce film. Ouais.
C'est zoomé alors qu'on l'a déjà vu depuis 5 minutes. Et en fait, toutes les images fonctionnent un peu comme ça. Et ça m'a gênée pour rentrer dans le film, en fait. C'est-à-dire autant sur le fond et l'histoire elle-même, elle était intéressante et bien nouée, autant sur la manière de le filmer, j'ai pas trop adhéré.
Yann Potin.
Oui, évidemment, c'est compliqué le sujet est très important, je pense, et c'est pas très facile de traiter la spoliation banale, ordinaire, puisque là, elle est non seulement rurale, elle est dans un coin reculé de la Pannonie, c'est totalement déconnecté. On voit bien que les enjeux sont une petite pharmacie, un appartement, une maison. Donc
une pendule.
Une pendule, voilà, ouais. Une pendule en caractère hébraïque, découvert, bien entendu.
Découvert en argent.
Donc ça c'est vraiment pour moi ce qui m'a séduit, enfin séduit.
Intéressé en tout cas.
Intéressé, voilà. Dans le traitement, en effet, je crois qu'on est dans un ultra symbolisme. Jeanne vient de le dire, qui est très lourd, sans aller plus loin.
Ouais.
La carriole, en gros, qui donne tout le rythme au livre.
Et puis ce changement d'alliance,
très
cette
vite,
fiancée qui était fiancée à un communiste,
voilà,
et qui est à deux doigts de se marier avec le fils du notable collaborationniste.
Voilà. Et pareil, le contexte, Isabelle l'a rappelé, est très peu présent. C'est pas parce qu'on fait là ici office de l'historien de service, mais le contexte, c'est la radio, justement. C'est intéressant. Le seul élément de contexte qui permet de dire, attention, la Hongrie est en train de devenir une démocratie populaire, puis les Russes qu'on voit passer, etc. Mm-hmm. Ce qui est quand même un peu, du coup, ça intemporalise, comme d'habitude, en partie avec en plus l'épure du noir et blanc, le côté d'ailleurs Emmanuel a dit tout à l'heure, on dirait un film de Sergio Leone.
Ouais, moi je trouve qu'il y a quelque chose dans cette lenteur.
C'est le désert intemporel de la souffrance. Donc et là je trouve que ça déconnecte, ça voilà, c'est une sorte de métaphore très
je vois que vous êtes tous
non pas du tout,
pas tellement séduit.
Il y a quelque chose de, j'entends bien cette critique du de ces personnages stéréotypés, mais je crois qu'il y a quelque chose de, quand même assez puissant à l'endroit de du fait qu'il est nécessaire, notamment pour ce notable, ce secrétaire de mairie, de rejouer un ordre social qui n'a pas encore été atteint d'une certaine façon, et du coup tout le monde surjoue son propre rôle social. Et à cet endroit-là, je crois qu'il y a un sens très fort quand même à ces personnages dessinés au couteau qui sont très attendus d'une certaine façon et qui surjouent un ordre qu'il désirerait être de retour, alors que ça n'est pas encore le cas. Et d'ailleurs, on va se rendre compte très rapidement au cours de ce film que l'ordre n'est pas revenu et que tout est à fleur de peau encore à cet endroit-là.
Oui, c'est ça. Isabelle Alandona, à propos de la juste route.
Sans doute, Anaïs a un peu raison sur cette analyse de l'ordre, mais je suis pas sûre que ce soit exactement ce que recherchait peut-être le réalisateur. Enfin, j'en suis pas convaincue.
Qui le sait.
Et, oui, qui le sait. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est cette forme d'invraisemblance du contenu des caisses. Alors, on peut pas trop le dévoiler.
Ah non, il faut pas le dévoiler.
Non, je vais pas le dévoiler, mais il y a une forme d'invraisemblance dans les objets.
C'est le côté métaphorique.
Voilà, oui, mais.
Ça devient une allégorie de l'allégorie.
Excuse-moi, mais je suis tout à fait d'accord. Là, je veux bien que ce soit allégorique, mais bon, pensons au spectateur qui va voir ce film.
Ah oui.
Nous, notre position, c'est quand même de savoir ce qu'il va en retirer aussi du point de vue de l'histoire, ou ce que cette fiction va lui apporter du point de vue de la connaissance historique.
Ah bah là,
et là, pour le coup, ça me paraît, ma méconnaissance est grande, mais ça me paraît complètement invraisemblable.
Yann Potin.
Oui, de ce point de vue-là, il y a une, quand même pour. Et puis le film n'est pas très long, donc il se laisse regarder quand même. Je pense qu'on peut
quand même
le
recommander. Moi, j'ai bien aimé ce film. Oui. Vous êtes
on
tous.
On peut recommander. Non, mais on peut recommander d'aller voir. Je crois qu'il ne faut pas. Là,
oui,
on est parti un peu comme des.
C'est pas indigne du tout.
Non,
bien sûr.
sur ce film. Non, par exemple, autant certains objets sont traités de manière ultra symbolique, l'eau, le feu. Enfin bon, passons. Autant par exemple, bon, moi j'y suis un peu plus sensible personnellement. Les papiers. Qu'ils soient justement les preuves de la spoliation, justement qui sont presque qui deviennent peu à peu un personnage du film.
Bien sûr.
Que, c'est un notaire, il s'agit de manipuler. Est-ce qu'on va les faire disparaître? Est-ce que
mais j'ai bien les papiers, j'en suis propriétaire.
Alors là, pour le coup, je trouve que c'est assez réussi. Ça, c'est
surtout l'endroit où on les sert, comme on dit dans ma campagne, c'est-à-dire dans un tiroir, au fond de la chambre pour que personne puisse y venir.
Non, ça c'est très. Alors là, pour le coup, je pense que c'est très inscrit, très, très bien rendu.
Jeanne Moisan, à propos de ce film donc, qui s'appelle La Juste Route, et 1945, c'est le titre en hongrois.
J'ai pas grand chose à dire de plus, parce que vraiment, ça m'a pas. Autant, ça donne envie d'en savoir plus, en fait, sur ce contexte. Enfin, c'est un peu ce que Isabelle disait, quoi.
C'est peut-être un peu réussi, du coup.
Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, tout de même, que... moi, personnellement, j'ai l'impression de n'avoir jamais vu cette histoire racontée. C'est-à-dire le retour...
pour ça que c'est frustrant, en fait.
Oui, mais je trouve ça assez étonnant, déjà, de voir le retour de déportés, ou s'ils ne sont pas déportés. Enfin, l'un d'entre eux l'est, puisque, effectivement, on en a la preuve. Mais de déporter dans un village dont ils ne sont pas originaires, parce qu'ils sont de cette famille un peu lointaine, qui fait qu'on ne les reconnaît pas lorsqu'ils arrivent dans ce village.
On ne sait pas qu'ils sont de la famille
Klaus, ou de la famille Polak, on ne sait pas très bien. Donc, toujours est-il qu'ils sont d'une famille qui n'est pas du village, et d'ailleurs, c'est une des perceptions très intéressantes de ce film que de savoir qui appartient à la communauté. Est-ce qu'ils parlent hongrois? Dit quelqu'un, avant même de les avoir vus et les avoir entendus parler, parce qu'au moins, s'ils sont hongrois, ils appartiennent
renvoie très précisément à l'histoire des Juifs de Hongrie, qui ont été persécutés sur le tard, si on peut dire, et une des raisons de cette... une des mises en place de la persécution, c'est, au début, c'est de savoir s'ils étaient hongrois ou bien si c'était des juifs qui venaient de Yougoslavie.
Et donc il y a cette, y a cette dimension-là qui est quand même extrêmement intéressante. Il y a quand même quelque chose. Alors vous dites effectivement à juste titre que ça peut ressembler à une tragédie qui se met en place, l'unité de temps, l'unité de lieu, etc. Mais et puis avec des personnages qui peuvent être un peu caricaturaux. Mais il y a aussi une dimension très forte de la dramaturgie, de le petit événement qui bouleverse, comme disait tout à l'heure très bien Anaïs, qui bouleverse un ordre qui commence à se rétablir. C'est-à-dire que il suffit d'un grain de sable pour que d'un seul coup la panique gagne. Et la peur de chacun et de chacune dans ce village, y compris ceux qui n'ont rien ou presque rien, et ce presque rien, ils l'ont pris sur le dos des juifs qui ont été exterminés, et quand même assez
leur ancien ami, d'ailleurs, on comprend bien.
Le chef de la famille, visiblement dominant dans
le village, était un des meilleurs amis de ce fameux notaire secrétaire de mairie qui a organisé juridiquement la dénonciation et la spoliation des familles.
Alors là, de ce point de vue-là, en effet, je crois que, même si évidemment il n'y a pas de lien de cause à effet, on peut voir ce film aussi en pensant à une nouvelle approche de la Shoah, portée par des gens comme Claire Zalk ou Stahl Brutmann, qui est une micro-histoire de la Shoah.
Voilà.
Et ça, de ce point de vue-là, avec ces lunettes, si j'ose dire, en effet, je pense que c'est une première, en quelque sorte, mais comme on est en Hongrie et qu'on n'a pas tous les éléments de contexte, je pense que c'est ça qui fait que on rebascule dans quelque chose d'une dramatique et non pas justement une analytique.
Peut-être, mais en tout cas, moi, ça m'a fait penser à un autre film bien plus ancien, Le Retour de Martin Guerre, où une communauté rurale, effectivement, d'après Nathalie Zeman-Davis, avec le travail de Nathalie Zeman-Davis, le film de Daniel Vigne, une communauté rurale était bouleversée par le retour. Là, c'était le retour d'un supposé guerrier, et tout l'ordre établi de ce village commençait à se fendiller sous l'arrivée d'une seule personne. Là, ils sont deux, mais il y a quelque chose de cela et que j'ai trouvé assez remarquable pour
ma part. C'est une figure littéraire, quasiment même évangélique.
Absolument, c'est une figure évangélique. Vous l'avez fort bien dit, Yann Potin. On va passer à la deuxième fiction d'histoire de cette table ronde fiction d'aujourd'hui.
Maman ! Maman, c'est Clovis. Il a été fait prisonnier en Allemagne.
Tu le reverras, ton mari. Il n'a pas été déshonoré. Et puis, prends le bon côté des choses. Au moins, il risque pas de se faire tuer. Hein? Allez.
Je comprends pas où il est.
Comment t'as dit déjà?
Manem.
Voilà, c'est là.
Un extrait du film Les Gardiennes de Xavier Beauvois qui va sortir en salle la semaine prochaine. Anaïs Quin, que peut-on dire pour résumer déjà le propos de ce film ?
Il s'agit pour Xavier Beauvois d'évoquer ce sujet des femmes et de l'arrière-front de la Première Guerre mondiale. Je crois que le film commence en 1915 et Hortense, qui est chef de famille en attendant le retour de ses fils, doit avec sa fille administrer, exploiter son domaine agricole. Elle manque de main-d'œuvre, donc elle va demander à embaucher une ouvrière agricole. Ce sera Francine, une orpheline, une ouvrière modèle, qui va, grâce à ses talents, conquérir l'estime d'Hortense, qui va lui promettre de la garder. Et Francine va penser qu'elle a trouvé une nouvelle famille et s'en réjouir. Mais ce ne sera pas si simple que ça, évidemment.
Alors, nous avons pratiqué une lecture genrée de ce film, puisque les trois femmes l'ont vu et les deux hommes ne l'ont pas vu, il faut le dire. Par hasard. Non, ça n'est pas parce que nous avons choisi de ne pas le voir, mais pour des raisons simplement d'agenda. Alors,
les femmes ont des agendas moins bien remplis que les
Exactement.
Vous.
Vous l'avez très bien compris. Isabelle Landonna, qui a trouvé le temps dans son agenda d'aller voir Les Gardiennes de Xavier Beauvois.
Et il fallait du temps, car le film est long. alors, d'abord, peut-être un éclairage sur le titre, Les Gardiennes, qui reprend en fait le titre d'un roman de Perrochon, d'Ernest Perrochon, publié en 1924.
Grand écrivain des Deux-Sèvres.
Grand écrivain des Deux-Sèvres. Emmanuel, je vais y venir. Lui-même ayant obtenu le Goncourt avec un autre roman, Naine, qui tourne toujours autour de ces histoires de filles de ferme. Hein, c'est assez intéressant. Bon, bref. Alors, que dire de ce film ? Bon, d'abord, la fille de ferme, Iris Bris, je crois, l'actrice.
Francine,
donc. Voilà. Est très crédible. Les deux autres, nettement moins, je trouve.
Les deux autres, c'est donc Nathalie Baye
et Laura Smet.
Smet en tablier, Isabelle Landonna,
Non, je trouve que ça ne marche pas très bien, mais peu importe. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film, qui est lent et long, mais en même temps, c'est du Xavier Beauvois, donc ce n'est pas très étonnant, c'est qu'il dit bien des choses intéressantes et à mon avis justes, mais Jeanne sera mieux placée pour le dire que moi, j'imagine, sur la vie rurale dans ces campagnes françaises dans la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire des campagnes où les femmes se retrouvent seules, puisqu'on sait que les paysans ont finalement été massivement envoyés au front, et où elles se retrouvent à devoir effectivement administrer la ferme. Alors on voit bien les travaux et les jours et les saisons qui se suivent avec une scansion très régulière. Rien ne nous est épargné hein, de ces saisons, mais après tout, pourquoi pas. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans ce film, au-delà de l'intrigue elle-même que vous évoquerez peut-être plus avant, c'est tout ce qui tourne à la mécanisation qui fait irruption à un certain moment. Il faut dire que cette ferme, c'est une grosse ferme. Hein, c'est une grosse ferme qui arrive à dégager des surplus, de sorte que à un moment et avant la fin de la guerre, cette femme Hortense, qui est une femme de caractère, parvient à investir dans une batteuse et puis dans un tracteur, à une époque où certes la machinisation, la mécanisation est en route, mais enfin, faut pas oublier que tôt, la mécanisation des campagnes françaises, c'est globalement après la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a très peu de tracteurs, de choses comme ça. Donc, on sent une campagne un peu opulente. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est ces figures de femmes qui exercent vraiment des métiers d'hommes. Il y a une charbonnière dans le film, auprès de laquelle la jeune Francine, à un moment, se réfugie. Et donc, on tourne autour de cette idée des femmes gardiennes du territoire national, comme l'avait demandé le président du Conseil de bonne mémoire que tout le monde connaît, Monsieur Viviani.
Oui, Jeanne Brezan, à propos des gardiennes de Xavier Beauvois.
Oui, alors moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai pas trouvé long. En fait, c'est vrai qu'il est long, mais en fait je me suis complètement mis dans ce rythme. Enfin, je trouve que pour évoquer le monde paysan de cette époque-là, on est vraiment dans le bon rythme de cinéma en fait. Et cette évocation des saisons, enfin on a effectivement en fait on a l'impression de vivre avec eux. Pendant le temps du film, l'évocation des labeurs paysans, pareil, j'ai pas trouvé ça pénible à voir. Enfin, en fait, il montre tous
pénible,
les gestes.
Hein. C'est pas parce que les gestes sont justes.
Non, mais c'est un monde en fait pour le coup un peu ce que vous ressentiez tout à l'heure sur l'évocation de la Hongrie de 45. Ben là, moi, je l'ai vraiment ressenti avec ce film, c'est-à-dire le monde paysan du début du XXe siècle où on voit tous les gestes du travail, les semailles, le labourage. La moisson, le battage avec des instruments. Alors effectivement, il y a quelques... Enfin, la mécanisation commence à arriver, mais en fait, on voit vraiment les gestes manuels qui s'accomplissaient à ce moment-là. Et ça, c'est vraiment très bien filmé. C'est magnifique à voir. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup séduit.
Le propre d'un homme qui n'a pas vu un film, c'est qu'il est capable de le commenter.
Non, pas du tout. J'ai vu la bande-annonce, mais j'ai une question à vous poser, puisque du coup, on peut se poser des questions.
Bien sûr.
Et en tout cas, j'en ai une en vous écoutant, Jeanne. C'est justement, est-ce que... D'après la bande-annonce, est-ce qu'il n'y a pas une esthétique un peu, je dirais, à l'Angélus de Millet?
Si, mais d'ailleurs, vous aviez beau voir le revendre, clairement.
Un peu clairement. Le soleil couchant.
C'est pas la terre de Zola. Hein.
Voilà.
Et Xavier Beauvois le revendique d'ailleurs d'avoir créé des tableaux.
Voilà,
on est vraiment dans la peinture de l'époque, c'est très esthétisant.
Il y a cette scène de semaille, où mère et fille sont dans
qui se répète,
qui se répète, et c'est très beau ça, c'est vrai.
Jeanne Moisan, sur ce film en plus, donc outre le portrait effectivement de cette lenteur paysanne, de cette France un peu immobile de la fin du 19e et du début du 20e, de cette petite entreprise rurale telle qu'elle a été décrite par exemple par Jean-Luc Maillot.
Oui, alors donc après il y avait aussi ce problème de savoir à quel point, enfin ce qu'ils avaient demandé sur à quel point est-ce que ça faisait vraiment allusion à ce qui s'était passé dans les campagnes pendant la guerre. Donc je pense que ce qu'on voit, c'est à la fois ce côté contre-intuitif de la prospérité paysanne pendant la guerre, parce qu'effectivement, en fait, il y a eu une augmentation des prix agricoles pendant la Première Guerre mondiale. Donc en fait, ça montre un peu quel type de profits ont pu être réalisés dans les exploitations qui réussissaient malgré tout à fonctionner grâce à cette mobilisation du travail des femmes. Et après, il y a tout ce problème historique autour de la question, qui est vraiment une grosse question historiographique, de savoir si la Première Guerre mondiale a été efficace ou non pour émanciper les femmes. Donc en fait, le film prend vraiment résolument parti en faveur d'un rôle hyper positif de la guerre, où grâce à elle, voilà, les femmes arrivent au combat. Elles
en partie seulement, héroïnes. Parce qu'on a, y a un moment un peu lourd d'ailleurs sur l'analyse genrée de cette guerre, qui est cette réunion familiale vers la fin du film, où le personnage joué par Laura Smet vient de montrer à son mari qui vient de rentrer du front les machines qu'elle a réussi à acquérir à un moindre prix, parce que abandonnée par les Américains qui sont déjà repartis. Et elle s'enthousiasme d'alléger la charge de travail pour tout le monde grâce à ces machines. Et Clovis, son mari, lui, transforme immédiatement ses acquisitions en outils de conquête. Et en l'occurrence, en outils de conquête de ceux qui ne sont pas rentrés du front, d'un des frères de sa femme, qui possède des terrains qui donc ne sont plus exploités. Et là, donc, le moment est un petit peu lourd dans le film, mais quelque chose de très fort à cet endroit-là malgré tout. Et la seule qui s'en sort d'une certaine façon, puisque les femmes de la ferme retourne à leur statut d'avant-guerre, la seule qui s'en sort, c'est Francine, qui est rejetée par la famille pour des questions morales. Et là, on aborde la question de la tenaille morale à l'arrière-front pour les femmes, toujours suspect de profiter de l'absence des hommes pour faire n'importe quoi. Je vais un petit peu vite. Mais cette jeune fille qui est rejetée par ce monde agricole va se réaliser et va s'émanciper, trouver sa liberté après avoir été abandonnée par la famille qu'elle pensait avoir trouvée.
Isabelle Lelandonna.
Et pour
à propos des gardiennes,
ce que vient de dire Anaïs et Jeanne auparavant, cette émancipation, elle est signifiée par le fait qu'elle se coupe les cheveux,
qu'elle chante,
et donc la dernière image, c'est un clin d'œil, je pense, au Sentier de la Gloire, puisqu'on a exactement une image exactement du même ordre avec des hommes qui la regardent chanter. Donc elle, on peut se dire qu'elle commence, enfin qu'elle est presque émancipée, mais sinon le film.
Alors qu'elle est mère célibataire,
elle a une jupe courte, enfin une robe au mollet. Et c'est vrai que le parti pris, ça serait celui de l'émancipation. Mais en même temps, le retour des hommes fait rentrer et Hortense et Francine dans un cadre, me semble-t-il, qui est celui préexistant à la guerre. C'est-à-dire où les hommes reviennent après des permissions, etc. et reprennent clairement le pouvoir.
Oui, vous disiez tout à l'heure que c'était un débat historiographique, Jeanne Moisan. Effectivement, cette question du backlash, du retour de bâton de l'après Première Guerre mondiale entre les hommes et les femmes dans les rôles sociaux qu'ils vont jouer les uns les autres est une grande question qui se débat encore aujourd'hui sur ce débat. Ce débat était encore très vivant.
Oui, bah, en fait, il faut aller regarder ce qu'écrit Françoise Thébault, qui a beaucoup travaillé sur cette question et qui évoque dans un article les trois âges historiographiques de la question du genre et de la guerre, pour montrer que bah il y a eu le premier âge qui a évoqué d'abord, enfin c'est vrai qu'en fait il faut commencer par reconnaître le fait qu'on voit jamais de films sur les femmes à la guerre, enfin c'est quand même intéressant. Donc ça, il y a eu l'historiographie, elle a fait la même démarche dans les années 1980. Ensuite, dans les années 90, il y a eu un autre moment où au contraire on a dit oui, bah, d'accord, bon, elles ont eu un rôle important, mais en fait l'ordre de genre s'est immédiatement remis en place. Et ensuite, il y aurait une espèce de synthèse entre ces deux mots.
Yann Potin ?
Oui, une question, puisque toujours en ignorant de ce film, mais cela dit, en vous écoutant, ça me donne envie de le voir. Donc une question vraiment à... est-ce que c'est le capitaine Conan des femmes? C'est ça que je veux dire, parce que en vous écoutant, j'ai un peu l'impression, de la même façon, non mais pas Bertrand Tavernier et Xavier Beauvois, il y a des liens, mais pas complètement, mais je veux dire, au sens où capitaine Conan mettait en scène à la fois la brutalisation, concept historiographique, et la dévirilisation, le retour de Conan dans son village, justement. Et là, on voit bien que c'est pas simplement l'exhaussement des femmes, c'est aussi la chute des hommes. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'on pourrait pas le mettre en regard? Je sais pas, hein.
Alors, moi, je crois que le contexte de culture historique générale est très différent. Oui. Je crois que quand Capitaine Conan est sorti au cinéma, il y avait une ignorance généralisée de ces faits-là. Là, on sort quand même on est en 2017, ça fait en fait 4 ans qu'on fête le centenaire qu'on célèbre le centenaire de la Première Guerre mondiale. Et je crois que la question de l'arrière, du rôle des femmes, a été peut-être pas au cinéma, mais à travers des expositions, des documentaires, je crois, largement proposés au public avant la sortie du film de Xavier Beauvois, je crois. Hein.
Jeanne Moisan et Isabelle Lelandonna, pour terminer sur les gardiennes de Xavier Beauvois. Jeanne Moisan, brièvement.
Oui, juste, alors, sur cette question du genre, j'ai été regardée, enfin, j'ai feuilleté rapidement le roman original et on voit quand même de quoi part le point de vue du film, parce que par exemple sur le moment où les femmes doivent faire le battage, l'auteur écrit « Et les femmes, encore une fois, occupèrent des places dangereuses pour la fragilité de leur corps ». Donc il y a quand même
une distorsion entre l'auteur,
un point de départ sexiste qui
est gommé dans le film.
Pas, mais il y a quand même, par exemple, quand Hortense tient la charrue et qu'elle s'écroule plusieurs fois, enfin on se demande pourquoi c'est pas plutôt la jeune ouvrière qui prend la charrue, parce qu'elle a l'air forte.
Parce qu'elle sait parler aux animaux.
Hortense, c'est Nathalie Baye.
Oui, Hortense, c'est Nathalie
Baye. Dernier.
Juste un dernier point. Pour les futurs spectateurs de ce film, on peut dire, je crois, que malgré tout, enfin moi, je ne m'ai pas spécialement enthousiasmée, mais ce n'est pas un mauvais film du tout. Pour le coup, on y apprend des choses. Oui. Et ça, du point de vue qui est le nôtre, il me semble que c'est un point extrêmement positif.
Voilà, c'est Les Gardiennes de Xavier Beauvois qui sort la semaine prochaine en salle. De la bande originale du film Ray de Nils ou Nils Atala, qui nous raconte l'aventure de ce périgourdin qui s'en va au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, non pas quérir l'or de Californie, mais une sorte d'or métaphorique dans le sud du continent américain, en Araucanie et en Patagonie. Il s'agit d'Antoine de Tounens. Ce qui est amusant, c'est que c'était Jean Raspail qui avait raconté il y a quelques dizaines d'années la vie de cet Antoine de Tounens, une sorte d'aventurier parti de France pour conquérir un royaume imaginaire dans le sud de l'Amérique du Sud. Et là, c'est donc un cinéaste qui nous raconte cette histoire, mais d'un point de vue très différent, puisqu'il s'agit de voir en Antoine de Tounens une sorte de personne qui comprend la Pachamama, qui comprend la terre-mère et qui vit au milieu des Indiens, en ayant compris, parce qu'il vient lui-même du pays, du contexte paysan, en ayant compris ce qu'était cette unité ou cette union des hommes, en l'occurrence de ces Indiens Mapuche, avec la terre-mère. Qu'est-ce que vous en pensez de ce film de Ray, Isabelle Lelandonna?
Alors, moi j'ai été, un peu ennuyée par les partis pris esthétiques, c'est le moins qu'on puisse en dire. Disons que si quelqu'un veut savoir ce qui est arrivé à Antoine de Tounens, et en dépit du fait que l'histoire soit pas forcément extrêmement claire et bien documentée, c'est pas en allant voir ce film qu'il en saura davantage. Il y a toutes sortes d'effets, de recherches esthétiques, c'est un côté expérimental.
C'est beau d'ailleurs.
Mais d'il y a 40 ans en arrière. En gros, ça se termine avec des kaléidoscopes de Jean-Christophe Averty qui sont...
Ça ressemble un peu au service de la recherche de l'ORTF.
Voilà, c'est le service de la recherche de l'ORTF. Bon, alors, pour revenir peut-être au fond, ce qui est dommage, vous évoquiez, Emmanuel, le roman de Jean Raspail qui a été publié en 1980 et qui à l'époque avait reçu le grand prix du roman de l'Académie française, je vous le signale. Moi, je trouve que l'histoire, qui par ailleurs est fascinante, de cet Antoine de Tounens, mais Yann va nous en dire davantage car lui, il fréquente le Périgord et il connaît par cœur le musée. Cette histoire fascinante, on y comprend pas. on n'en comprend pas grand-chose.
C'est pas fait pour, en l'occurrence.
Mais c'est quand même un petit peu dommage, compte tenu du point de vue qui est le nôtre. Ouais. Et en plus, on ne voit pas grand-chose des Indiens Mapuche, qui tiennent tête férocement depuis le XVIe siècle aux
tentatives de colonisation.
Voilà, et on ne comprend pas plus, si ce n'est peut-être parce que vous évoquiez, Emmanuel, c'est-à-dire quelqu'un qui a une dimension mystique, que le film restitue bien, d'ailleurs, parce que on voit ce roi avec une couronne qui est une couronne d'épines, en réalité, alors que la couronne du musée, évidemment, ne ressemble pas du tout à cela. Et donc, du coup, on reste un petit peu sur sa fin. Il y a des images comme ça, assez lent. Et puis, il y a cette technique qui consiste
à gratter
le film pour faire comme si il s'agissait de vieilles archives cinématographiques à une époque où le cinéma n'existe pas.
Oui, il y a quand même, oui, parce qu'effectivement, ça se passe au milieu du
film. C'est quand même un gros problème, voilà.
Et donc, effectivement, on pourrait croire, d'ailleurs, un spectateur qui irait en salle, que Antoine de Toulonnas a tenté cette conquête de son royaume aux alentours de 1900, c'est-à-dire au tout début du cinématographe, puisque beaucoup d'archives, il y a des véritables archives qu'ils ont d'ailleurs trouvées du côté, je crois, du Danemark, de Copenhague, d'Amsterdam. Ces archives donc ont été restituées dans ce film avec de fausses archives qui sont donc tournées par le réalisateur lui-même.
Oui,
Yann Potin, à propos de Ray.
Cette texture sépia, parce que finalement ça joue sur aussi le passé se réjaunit. Je crois que c'est outre la confusion des temps, la discordance des temps complète entre l'image d'archives prétendue et précisément le fait qu'on se situe en 1860 et c'est pas autour de 1860 et justement en quelque sorte il y a déjà la photographie mais il n'y a pas l'image mouvement. C'est très intéressant, mais à mon avis un peu raté. Non. Ce qu'il y a de fascinant, c'est qu'en effet, Raspail ou non, il n'y ait jamais eu de film sur cette histoire. Et jamais eu d'autres romans.
Il y a eu plusieurs projets de films.
Voilà, sans doute. C'est un peu comme, j'imagine, Stanley Kubrick et Napoléon.
Ils se sont échoués, notamment devant l'absence, justement, d'images. On est dans cette période.
Oui, mais ça, c'est pour les aspects documentaires.
On a des photographes. Oui, mais les documents visuels sont importants pour faire un film.
C'est
une
histoire qui est tellement extraordinaire.
Oui. Pensons à l'homme qui voulait être roi.
L'avocat rural. Voilà, c'est ça.
Au film qu'a fait John Huston.
Exactement. L'homme qui voulait être roi.
C'est un grand film.
Et puis, de toute façon, c'est un Don Quichotte du 19e siècle. Et d'ailleurs, c'est ça que ça parle, si j'ose dire, excusez-moi l'expression, dans la culture espagnole. C'est ça qui est mis en scène. C'est une espèce d'anti-Don Quichotte, d'anti-héros. Bon, mais simplement, moi j'en appelle à voir quand même ce film pour tous ceux qui voudraient se lancer dans une étude plus approfondie de ce phénomène, de cette histoire. D'ailleurs, en se la remémorant, on s'était dit avec d'autres camarades de l'histoire mondiale de la France que ça aurait été un chapitre parfait pour l'histoire mondiale de la France, l'aventure d'Antoine de Toulonnas, mais en effet, il y a comme une sorte de rendez-vous manqué avec. Alors là, c'est même plus de la mise en contexte, c'est même plus de l'analyse. Précisément, c'est tout à fait intéressant que ce soit qui viennent de cette région-là en France. Il y a un contexte.
On se demande comment c'est possible.
Voilà, c'est exactement.
Comment ça lui est venu l'idée d'aller en Patagonie. Voilà.
Ouais. Anaïs, qui est à propos de Ray, de Niles ou Nils, donc Atala.
Moi, il me semble qu'il y a quand même quelques trouvailles formelles qui sont intéressantes. Après, c'est vrai qu'on peut regretter le fait que le réalisateur renacle. Alors, on comprend bien l'intérêt de cette recherche créatrice et créative. Mais pourquoi renacler à nous raconter un petit peu l'histoire d'Antoine de Toulonnas, à y mettre le nom de cet Antoine de Toulonnas dans le titre du film? Pourquoi renacler à nous raconter cette fable, finalement?
Non, mais d'autant que
pourquoi
ça n'a
choisir
pas été complètement irréel.
De nous promettre, d'une certaine façon, dans le titre, de nous parler d'Antoine de Toulonnas, alors que visiblement, alors qu'il a fait énormément de recherches, si j'ai bien compris, dans les archives, alors qu'il y renonce en cours de route. Après, il y a de très belles séquences, notamment les séquences du procès, avec ces personnages masqués, où l'on apprend en fait le plus de choses sur l'histoire d'Antoine de Toulonnas et sur la conflictualité de ce territoire qui effectivement n'appartient à personne, en tout cas à personne, pas aux colons de l'époque, parce que les Indiens résistent et que Antoine de Toulonnas arrive à les fédérer et à les convaincre que créer un État indépendant serait une arme définitive contre les appétits chiliens et argentins voisins. Mais effectivement, cette frilosité face à la narration peut gêner un petit peu le spectateur.
Jeanne Moisan, à propos de Ray, de Nils ou Niles Atala.
Moi, je serais pas aussi sévère parce que je pense qu'il faut quand même déjà rappeler que c'est une toute petite production et c'est un réalisateur qui cherche à faire des expériences autant avec le cinéma qu'avec l'histoire. Et en fait, il a tout à fait le droit de chercher à jouer. On n'est pas obligé de toujours apprendre. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire utiliser l'histoire au cinéma? Est-ce que c'est toujours quelque chose de didactique qu'on doit attendre de ça? Enfin, je suis pas si sûre. Et moi, je trouve qu'il y a des choses qui sont intéressantes dans sa manière d'utiliser les archives, celles qu'il a travaillées sur le procès, qu'il met en scène, celles qu'il essaye de monter avec la manière dont il joue sur la pellicule. En fait, il essaye de faire un jeu sur les temporalités et qui fonctionne visuellement, où on a d'un côté la temporalité du procès et le fait que ce Français un peu fou essaye de se rappeler ce qui lui est arrivé. Donc, moi, je trouve que ça fonctionne assez bien. Là où je le suis moins, c'est qu'en fait, il raconte qu'il essaye de montrer que en histoire, il y a toujours plusieurs récits et qu'en fait, il en choisit un. Mais c'est vrai qu'en fait, il choisit celui de la folie de Tounens.
Alors qu'en fait, si on se replace
dans l'histoire du 19e siècle, on sait que des aventuriers conquérants dans son genre, il y en a eu beaucoup et qu'en fait, il n'était pas si fou que ça. Il essayait de jouer Garibaldi, il essayait de jouer...
Absolument.
Donc, ce qui est dommage, c'est de ne pas prendre plus au sérieux ce projet-là en voyant ce que ça indique sur l'histoire du 19e siècle. Et c'est vrai que là aussi, où je suis, Isabelle, c'est qu'on est déçu sur si on est dans ce degré d'expérimentation, pourquoi ne pas expérimenter une histoire du point de vue des Mapuche qui aurait été quand même la moindre des choses et qui n'est absolument pas présent.
Absolument. Même si à la fin, effectivement, il y a cette volonté de dire que le combat des Mapuche continue encore aujourd'hui. C'est peut-être ce qui m'a le plus intéressé dans ce film, c'est la présence des Mapuche eux-mêmes, c'est-à-dire les trois ou quatre séquences de cette étrangeté de ce Français qui se retrouve face à eux et avec cette langue qu'il ne comprend pas, avec un traducteur qui doit lui traduire tout ce qui est dit par les Mapuche, tente de comprendre quel est l'esprit de cette population. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est peut-être le plus intéressant de ce film, c'est cette rencontre impossible, assez difficile à faire et qui malgré tout.
C'est ce qui persiste de cette aventure, puisque je crois qu'une association du souvenir franco-arocanien existe toujours et défend la cause des Mapuche.
Il y a toujours des descendants aussi, voilà, c'est ça. D'Antoine de Tounens.
Moi, à mon avis, a dit la chose essentielle, c'est que on reste du point de vue d'occidental, d'une folie occidentale, mais de ce point de vue, on voit pas le point de vue des Indiens. Et en effet, cette association là, à Tourtoirac, disons le nom du village. Donc cet été, si vous passez en Dordogne, allez à Tourtoirac voir le musée d'Antoine de Tounens. Et des rois d'Araucanie.
Voilà, ça s'appelle donc Rey de Nils Attala. Et puisque nous parlons du 19e siècle, je voulais dire un tout petit mot sur les mardis des révolutions qui est organisé à la mairie du 18e arrondissement. Là, en l'occurrence, par la Société d'Histoire de la Révolution de 1848 et des révolutions du 19e siècle. C'est une série de conférences d'université populaire qui a commencé le 7 novembre dernier avec Michel Rio-Sarcé et Federico Tarragoni et qui continue le 5 décembre, c'était la semaine prochaine, avec François Jarige et Sabine Dulin autour de l'émancipation du travail, une séance animée par Carole Christen. C'est à Paris, à la mairie du 18e arrondissement. Et puis, rendre un hommage à un grand historien du 19e, à savoir Jacques Porte, historien en particulier des États-Unis, dont nous avons appris la disparition. Il était régulièrement invité chez nous dans la Fabrique de l'Histoire pour parler du Far West, pour parler du Western, pour parler des États-Unis. On a appris sa disparition. Vous vouliez dire un petit mot, Isabelle Le Landonna ?
Oui, à propos de l'annonce des conférences, vous avez annoncé François Jarige, et pour rebondir sur notre film Les Gardiennes, François Jarige est celui qui a écrit une histoire des résistances à la technique et qui dit des choses très intéressantes sur la résistance du monde paysan à l'introduction de la mécanisation.
Et pour parler donc de Jacques Porte, un extrait d'une des émissions qu'il avait eu la gentillesse d'accepter dans la Fabrique de l'Histoire, parler donc du western.
Le western, plus que d'autres choses, vraiment, c'est vraiment une création de cinéma. Hein. Ça n'existe, le cowboy n'existe pas en dehors du cinéma, en gros, on peut dire. Donc, c'est est-ce que l'imaginaire est touché et frappé, créé par le cinéma?
Oui.
Dans le fond, c'est la question. C'est pas prouvé, hein. Aucun mouvement politique, aucun mouvement social n'a été créé par le cinéma. Or, le western n'existe que par le cinéma. n'existe pas par la réalité historique. Mmh. Une petite bagarre opposant des mauvais garçons, c'est qui défendaient un éleveur, sont devenus des bagarres mythiques au Quai Corral. Des affrontements avec les Indiens minuscules. Qui se passait avec quelques dizaines d'hommes sont devenus des batailles épiques et ainsi de suite. Et c'est devenu une part de ce que transmet le film. Il n'y a pas d'autre chose que cela. La réalité, elle est vue par les historiens, bien sûr. Il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on est allé voir. Mais dans ce qui est resté, c'est ça qui est resté. Ce qui est aussi frappant dans le western, c'est bien sûr sa concentration, comme il a été dit, géographique et mixte de temps et chronologique, mais aussi quand même une concentration sociale très précise. Le western s'adresse à une société qui est totalement blanche. Mmh. Vous n'avez jamais, bien sûr, pratiquement pas un noir dans les westerns. Il y en a quelques-uns, bien sûr, on en trouve quelques-uns. Le domestique de John Wayne est noir, mais qui a tué Liberté Valence, qui est un film admirable d'ailleurs. Mais sinon, il n'y en a pas. Les Indiens, même dans les films les plus favorables, considérés comme les plus favorables aux Indiens, qui sont les héros des Cheyennes ? C'est le capitaine. Richard Widmark, c'est l'institutrice. Les Indiens sont des victimes nobles, peut-être, mais victimes. Donc c'est une société qui est quand même le Louistan classique à tout. C'est une société très précise qu'il décrit.
Voilà, Jacques Porte, dont on a appris la disparition. Jacques Porte avait été donc un des grands historiens des États-Unis en France. Il nous faisait l'honneur de venir régulièrement à la Fabrique de l'Histoire. On voulait saluer sa mémoire. Il avait aussi dirigé l'Association des professeurs d'histoire géographie, dont il a été longtemps le président. On a appris donc sa disparition cette semaine. Il est 9h53 sur France Culture. Il est largement temps de retrouver notre rubrique du vendredi en fin d'émission, la rubrique Rétro News, conçue avec, c'était à la une, conçue avec Rétro News, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France. On lit à chaque fois un grand texte tiré de la presse du 19e et du 20e siècle. Et là, on est au tournant du 19e et du 20e siècle.
J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable.
Le 26 avril prochain,
en portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose.
C'était à la une.
Le Petit Parisien, 2 juin 1900. L'Europe commence à s'émouvoir de l'extension que prend l'insurrection des boxers en Chine. Quand cette insurrection éclata, on ne voulut croire qu'à un mouvement local qui serait vite réprimé. Or, non seulement il prit rapidement des proportions alarmantes, mais encore, rien ne fut tenté par le gouvernement de Pékin pour l'entraver. On apprenait de jour en jour la marche en avant des insurgés qui incendiaient, pillaient et assassinaient sur leur route, forçant les résidents étrangers à fuir les localités où ils entraient en maître, faisant même des prisonniers parmi les Européens. Les boxers, disait une dépêche de Tianjin, marchent sur Pékin. Et il ne paraît que trop certain qu'ils y arriveraient si cette armée de rebelles n'était point arrêtée par l'intervention de l'Europe. On a tout lieu de penser en effet que cette formidable révolte pourrait bien avoir été préparée, favorisée en tout cas, par l'impératrice mère et ses mandarins qui veulent à tout prix, bien qu'ils affirment publiquement le contraire, empêcher les progrès de l'influence européenne. N'osant ouvertement refuser d'ouvrir la Chine aux étrangers, de permettre l'accès de ses ports, de laisser la voie libre à la civilisation occidentale, ils auraient suscité contre l'ennemi d'Europe la rébellion qui met en ce moment en feu tout le nord du Grand Empire jaune. Qui sont les boxers ? Les membres d'une de ces nombreuses sociétés secrètes qui couvrent le territoire chinois. Or, il faut se rappeler ce qui s'est passé au mois de janvier dernier. L'impératrice mère, afin de mettre radicalement fin au projet de réforme de l'empereur, força celui-ci à signer son abdication et lui donna comme successeur le prince Puxing, âgé de 9 ans. Le nouveau monarque était le fils du prince Tuan. Et bien ce dernier, appartenant au parti hostile à l'influence européenne, passe précisément pour le chef de deux puissantes sociétés secrètes, la Grande Épée et les Boxers, dont les adeptes sont répandus dans les provinces du Pechili, de Shantung et du Honan. Le vrai nom de la Société des Boxers est l'Abat-Jour Rouge. Elle est divisée en deux sectes. Ching Chun Tuo, secte de la Cloche d'Or, et Tatan Hui, secte de la Grande Eau. Ses affiliés s'appellent entre eux les donneurs de coups de poing du patriotisme, et c'est pourquoi les Anglais les ont dénommés boxers, boxeurs. Toutes les sociétés secrètes chinoises sont sans cesse prêtes à l'action insurrectionnelle. La plupart ont été fondées sur ce principe que le peuple n'ayant aucun recours contre les fonctionnaires du gouvernement, il y a nécessité de s'associer en vue d'une rébellion toujours imminente à la suite des exactions de l'administration. Il paraît certain que la plus puissante de ces associations mystérieuses est celle de la Grande Triade, qui, alors que la Société des Boxers n'est forte que dans le nord de la Chine, possède, elle, des ramifications sur toute la surface du territoire et jusque dans les colonies européennes de l'Indochine. Une autre vaste association s'appelle le Lotus Blanc, et elle compte ses adhérents par centaines de milles, jusqu'aux Indes, en Australie, en Amérique, partout où le Chinois émigre. Elle a des mots de passe, des règlements, avec une peine terrible pour celui qui les enfreint. On a raconté que pour être libre de se donner tout entier à la guerre, ils tuaient leurs femmes et leurs enfants. Comment l'insurrection des boxers se terminera-t-elle? Il est certain, a-t-on fait remarquer, qu'ils n'ont rencontré jusqu'ici de la part des autorités chinoises qu'une mollesse, qu'on peut très bien prendre pour une complicité et qui a dû les encourager. Mais ce qui est non moins sûr, c'est qu'on ne paraît point disposé en Europe à laisser plus longtemps le gouvernement de Pékin, inspiré par cette impératrice mère dont on n'est plus à compter les duplicités, favoriser une révolte qui menace la sécurité des étrangers, qui met leur vie en péril. Jean Frollo.
Et si vous voulez en savoir plus sur cette révolte des boxers et de l'article dont on a parlé aujourd'hui avec Nathalie Canoui qui nous le lisait dans une réalisation de Séverine Cassard, allez donc sur le site Retro News de la Bibliothèque Nationale de France, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France. Et si vous voulez continuer à parler d'histoire, n'hésitez pas à écouter demain donc Concordance des temps de Jean-Noël Jeannet. Il nous parlera des routes de la soie. Une émission d'aujourd'hui préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marseille. Jean-Guy Lamèche nous a accompagnés à la technique et Anne Fleury à la réalisation. La semaine prochaine, nous serons encore ensemble, Anaïs Quin, et nous parlerons de...
Que faire de nos morts ? Et nous commencerons la semaine avec une émission avec l'historienne Stéphanie Sauget et Pascal Dubus sur notre sensibilité à la mort à travers les âges, en histoire et à travers l'art mortuaire également.
Eh bien, à lundi.